RCF. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Place de l'Europe. Je suis Rémi Jabet, volontaire en service civique au pôle média de l'association Les Jeunes Européens de Strasbourg. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée à l'Europe. Nous sommes le 3 mai et le 3 mai c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Alors nous allons nous contenter de parler de la liberté de la presse en Europe ce soir. Et la liberté de la presse continue d'être en danger. Il y a quelques jours encore, deux journalistes espagnols ont été tués dans l'est du Burkina Faso. David Beriaïn, accompagné de son caméraman Roberto Fraile. Chaque année à cette période de l'année, Reporters sans frontières publie son classement annuel sur la liberté de la presse dans le monde. Dans un instant, Maria Semenova sera avec nous. Elle nous expliquera la façon dont se calcule ce classement et nous aurons le plaisir d'écouter Pauline Hadès-Mével, la rédactrice en chef de RSF. Bonsoir Théo Boucard.
Bonsoir Rémi, bonsoir chers auditeurs.
Merci d'être avec moi en studio. Alors ce soir, vous nous parlerez de la différence de traitement de l'information entre les pays du Nord, du Sud et de l'Est notamment. Vous nous ferez également une chronique sur le dessin de presse. Vous avez rencontré le dessinateur de presse Pete à cette occasion. Le programme est chargé ce soir dans Place de l'Europe. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
Place de l'Europe, avec le mouvement des jeunes européens, RCF Alsace.
La journée de la liberté de la presse, c'est une fois par an, tous les 3 mai exactement. À cette occasion, Reporters sans frontières publie un classement mondial de la liberté de la presse suivant un algorithme complexe. Bonsoir à vous, Maria Semenova.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce classement? Quels sont les pays étant le plus libres au niveau de la presse et les pays où la liberté reste compliquée?
Oui, bien sûr, Rémi. Donc Reporters sans frontières, une organisation non gouvernementale fondée en 1985 en France, qui a pour l'objectif de défendre une expression et une information libre. En avril de chaque année, elle réalise un classement mondial de la liberté de la presse dans 180 pays. Ce classement s'appuie sur trois formes d'acteurs. Les équipes de spécialistes, les correspondants qui mesurent l'intensité des violences envers les journalistes, associés aux professionnels des médias qui répondent aux questionnaires sur le pluralisme, l'indépendance des médias, l'environnement, le cadre légal, la transparence et les infrastructures. Le tout après un calcul barbare qui vous rappellera les heures les plus sombres des cours de mathématiques, donne une note de 0, la meilleure situation, au 100, la pire. Quel est le résultat de 2021? Pas très glorieux. L'exercice du journalisme est bloqué dans 130 pays. En 2020, 50 journalistes sont morts et 400 sont emprisonnés dans le monde. Les pays en queue de peloton ne vous surprendront guère. Corée du Nord, Vietnam, Chine. En 2021, la Chine reste la plus grande prison au monde pour les défenseurs de la liberté de la presse. 7 journalistes sont toujours détenus pour avoir couvert la pandémie. Et plus de 450 internautes ont été interpellés pour le partage des informations qualifiées de fausses rumeurs sur le coronavirus. En effet, la pandémie a aggravé la situation des médias dans la plupart des pays, car elle a permis aux États de restreindre l'accès sur le terrain, et les pays de l'Union européenne ne font pas l'exception. Pourtant, l'Europe est le continent où la presse se porte le mieux, mais le résultat est très hétérogène. Les pays en tête de podium sont les habitués. Norvège est la première pour la 5e année consécutive, suivie par ses voisines la Finlande et la Suède. Le modèle nordique fait encore ses preuves, grâce au principe de la liberté de la presse qui est inscrit soit dans les lois, soit dans la Constitution. Où est la France? Loin, très loin. Derrière le Samao, elle a perdu 2 places depuis 2019 pour finir à la 34e. Le pays des droits de l'homme fait grise mine. Pourquoi? Car elle n'a pas tout ce que les pays nordiques ont. L'article 24 de la sécurité globale devrait restreindre la liberté de la presse, alors que la Norvège le protège par sa législation. Auquel s'ajoutent les vices coutumiers, la concentration des médias aux mains des gros milliardaires, contrairement à la Finlande qui n'a pas ce problème, et le média bashing de la part des hommes politiques contre lesquels lutte le Danemark. Rassurez-vous, la France n'est pas la pire. En Hongrie, les médias indépendants sont censurés. En République tchèque, les violences contre les journalistes sont banalisées. Le réseau mafieux ne cesse de gêner le travail de la presse italienne. La liberté d'expression, la liberté des médias et le pluralisme sont inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'UE. Mais comme le souligne le classement des Reporters sans frontières, beaucoup reste à faire.
Merci beaucoup, Maria.
Place de l'Europe.
Et la chronique de Maria a été enregistrée en amont de l'enregistrement de cette émission. Restrictions sanitaires oblige. Alors nous allons voir plus en détail ce classement sur la liberté de la presse dans le monde. Nous nous focalisons en Europe avec Pauline Hadès-Mével, rédactrice en chef chez Reporters sans frontières.
Paulina Desmevel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef et porte-parole de Reporters sans frontières, une organisation qui lutte et qui met en lumière les différentes menaces pesant sur le journalisme en Europe et dans le monde. Alors ma première question concerne votre classement annuel de la liberté de la presse qui couvre l'ensemble des pays du monde. L'édition 2021 vient de sortir, une année forcément marquée par la pandémie de Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la méthodologie de ce classement et son influence sur le débat public en Europe et dans le monde ?
Oui, bonjour. Donc le degré de liberté dont jouissent les journalistes en fait dans 180 pays qui sont évalués par ce classement annuel de la liberté de la presse, ce degré de liberté est déterminé grâce à l'accumulation de réponses d'experts à un questionnaire que nous proposons en fin d'année, au mois de septembre. Nous recueillons les réponses et à cette analyse qualitative s'ajoute un relevé quantitatif des violences commises contre les journalistes sur la période prise en compte, donc septembre, janvier, février, parfois mars. Les réponses de ces experts, en fait, associées au relevé des violences commises à l'encontre des journalistes sur l'année civile écoulée, permettent d'établir un score, et c'est ce score qui va être publié donc au mois d'avril quand nous publions notre classement. Les thématiques en fait sur lesquelles porte le questionnaire, elles sont diverses et elles sont bien sûr remises à jour en fonction de la façon dont le journalisme évolue. Il y a le pluralisme, il y a l'indépendance des médias, l'environnement et l'autocensure, le cadre légal, la transparence et la qualité des infrastructures qui soutiennent la production de l'information. La méthodologie du classement, elle permet d'évaluer les effets de toutes les crises qui affectent le journalisme et l'avenir du journalisme. Aujourd'hui, on voit bien que le journalisme est affecté par de nombreuses crises, et ça fait plusieurs années, des crises géopolitiques, technologiques, démocratiques, on le voit beaucoup en Europe, puisque ça s'accroît. Des crises de confiance, on le voit également avec la haine envers les médias d'information et les journalistes, la crise économique qui n'a pas attendu la crise sanitaire pour bien sûr naître, et puis une crise sanitaire majeure. Donc c'est ça que nous étudions et c'est ce qui nous permet en fait de voir en fait comment le pays a réagi en matière de démocratie et de liberté de la presse face à toutes ces exactions qui sont commises.
Alors l'année dernière, vous rappeliez que l'Europe était le continent le plus favorable à la liberté de la presse, et ce en dépit de certaines dérives observables dans de nombreux pays européens, de l'Union européenne et des Balkans. Quels sont actuellement les pays dont la situation est la plus inquiétante ?
Alors la plus inquiétante, malheureusement, il y a de plus en plus de pays qui nous inquiètent, même si malgré cette dégradation à l'échelle de l'Europe, ça reste le continent le plus favorable à la liberté de la presse. On a vu par exemple en Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban, qui a fait vraiment de son pays un véritable contre-modèle européen en matière de liberté de la presse. Il a fait passer une législation d'urgence en mars 2020, qui depuis a changé de nom mais pas de portée, qui continue de criminaliser la diffusion des fausses informations sur le coronavirus et à bloquer l'accès à l'information. Les premières victimes de cette politique agressive, ce sont les médias publics des pays voisins. On voit, à titre d'exemple, par exemple en Pologne, la TVP. La Pologne est aujourd'hui classée 64e, donc elle ne cesse de dégringoler dans le classement, elle aussi, depuis l'arrivée du Parti Droit et Justice au pouvoir en 2015. Et on voit que la télévision publique TVP a été transformée en un véritable organe de propagande gouvernementale. On voit également une situation un peu similaire en Slovénie, qui elle a perdu 4 places, elle demeure relativement bien classée 36e, mais elle recule beaucoup. L'agence de presse STA, en fait, elle aussi a été victime de pression. En Pologne, on a vu aussi cette tentative de repolonisation des médias. Donc, ce contre-modèle européen, cet illibéralisme hongrois qu'on a vu asseoir sa domination au sein de l'Union européenne, continue de faire des petits. Il y a vraiment un effet boule de neige ailleurs et c'est très inquiétant. Mais malgré cette situation, la situation des médias, c'est vraiment la situation des médias en Bulgarie aujourd'hui qui nous inquiète le plus, même si c'est pas le pays dont on parle le plus. C'est un pays qui est classé 112e sur 180 au classement de la liberté de la presse de RSF. C'est un pays qui est toujours le dernier, ça fait plusieurs années. Et en fait, les quelques voix libres du pays souffrent d'intimidation et de violence, de campagnes de dénigrement et de pression de l'État d'autre part. C'est un pays où l'impunité règne, les crimes contre les journalistes ne sont pas vraiment condamnés. On voit des journalistes qui sont interpellés, malmenés dans les manifestations et qui ont le plus grand mal à faire valoir leurs droits. On voit des menaces de mort qui restent impunies, non traitées. Des journalistes qui travaillent sur la corruption et qui ne peuvent pas exercer dans des conditions normales. Et même si aujourd'hui l'homme qui symbolisait une tendance extrêmement autoritaire, un député qui s'appelle Délian Pesky a vendu ses médias, en tout cas dit-il, a vendu ses médias, son influence sur la presse reste extrêmement problématique. On est vraiment, avec la Bulgarie, dans un cas d'école, un cas de dégradation démocratique extrêmement important, un cas d'atteinte à l'état de droit qui reste impuni avec des journalistes qui ne sont pas en capacité de travailler. Donc on espère que la transition gouvernementale avec les nouvelles élections législatives qui se sont tenues au mois d'avril de cette année va permettre d'avoir une coalition à la tête du pouvoir qui sera plus à l'écoute de ses valeurs démocratiques.
Alors vous avez parlé de nombreux pays d'Europe centrale et orientale, la Pologne, la Hongrie, la Slovénie et la Bulgarie. Est-ce que dans ces pays, la régression de la liberté de la presse est-elle uniquement imputable au gouvernement ?
Alors non, effectivement, il y a un effet boule de neige qui n'est pas nécessairement lié au gouvernement en place, mais ils peuvent y contribuer. Je vous explique. En fait, la Slovaquie, par exemple, depuis l'assassinat d'un journaliste d'investigation en 2018, a fait plutôt figure de modèle, en tout cas dans ce groupe des pays de Visegrad. La Pologne et la Hongrie se comportant très mal. La République tchèque a quand même un président de la République qui menaçait les journalistes avec des fausses kalachnikovs. Donc on va dire que la Slovaquie, dans l'enquête qui a été menée sur cet assassinat majeur dans le pays, a fait des progrès et elle a d'ailleurs elle avait des responsabilités particulières justement au regard de cet assassinat d'un jeune journaliste. Simplement, cette enquête qui a avancé, malheureusement, n'a pas abouti, mais en tout cas abouti favorablement. Et nous avons été consternés de voir que même si deux auteurs et un intermédiaire de l'assassinat ont été condamnés, le ou les commanditaires, et on pense au suspect principal qui est un businessman qui s'appelle Marianne Kosner, en tout cas le ou les commanditaires ne l'ont pas été. Donc ça reste une tâche en fait sur l'histoire contemporaine de la Slovaquie, ça reste un problème de justice, donc les gouvernements ne sont pas nécessairement responsables, même si, et on le voit en Pologne notamment, ils noyautent les institutions, en tout cas qui vont leur permettre de s'en prendre à l'état de droit, et notamment la justice avec la Pologne, on le voit depuis 5 ans, le tribunal constitutionnel, les juges dans leur ensemble qui sont muselés, pressurisés et dans l'incapacité, on l'a encore vu récemment avec le médiateur, l'ombudsman en Pologne, qui sont obligés de lâcher des dossiers et qui n'ont plus la capacité en fait de faire leur travail librement. Donc c'est la difficulté.
Place de l'Europe, avec le mouvement des jeunes européens, RCF Alsace.
Alors Théo Boucard, nous avons entendu Pauline Hadès-Mével évoquer un certain nombre de signes inquiétants en Europe centrale et orientale concernant la liberté de la presse. Alors pouvez-vous nous en dire plus sur la situation générale de cette liberté en Europe ?
Oui Rémi, comme la rédactrice en chef de Reporters sans frontières l'a dit, l'Europe est le continent où la liberté de la presse est la mieux protégée et connaît même une amélioration par rapport à 2020. Pourtant, c'est aussi le continent qui connaît la situation la plus hétérogène. Alors sur les 10 premiers pays du classement, comme on l'a vu, 7 se situent en Europe et 5 dans l'Union européenne. Le trio de tête reste inchangé par rapport à l'année dernière, Norvège, Finlande et Suède. Les 3 pays nordiques sont de véritables modèles, avec une presse libre et diversifiée, une déontologie journalistique très élevée et un modèle de financement assez stable. Pour autant, et comme nous le verrons en deuxième partie d'interview avec Pauline Hadès-Mével, le cyberharcèlement, est le véritable point noir. De l'autre côté du spectre, nous avons des pays qui piétinent allègrement la liberté de la presse et d'expression. La Russie, 150e du classement, la Turquie, 153e, le Bélarus, 158e et l'Azerbaïdjan, 167e, sont malheureusement connus depuis des années déjà pour des arrestations arbitraires de journalistes, la destruction de toute forme de pluralisme et surtout leur paranoïa envers de soi-disant agents de l'étranger, censés semer la discorde et menacer la sûreté nationale.
Et comment cette dérive inquiétante se développe-t-elle au sein de l'Union européenne ?
Eh bien, comme la rédactrice en chef de Reporters sans frontières l'a dit, la Hongrie de Viktor Orban, 92e au classement, soit dit en passant, agit véritablement comme un contre-modèle illibéral. De nombreux journalistes et journaux ont été rachetés par des hommes proches du pouvoir, comme Index.hu, soit ont fermé faute de financement, comme le respecté Maillard Nemzet, soit ont vu leurs publications être suspendues, comme Netzabatchak. Cette haine des médias critiques a malheureusement fait des émules, un effet boule de neige, comme le qualifie Paulina Desmevel. En Pologne notamment, la télévision publique est devenue un outil de propagande pour la droite radicale du parti Solidarité et Justice, tandis qu'un grand journal d'opposition, Gazeta Wyborcza, est dans le viseur du gouvernement. En République tchèque, ce sont les propos haineux de la classe politique qui inquiètent particulièrement. On peut se souvenir du président pro-russe Miloš Zeman, qui avait notamment menacé des journalistes avec une fausse Kalachnikov. C'est pourtant la situation en Bulgarie qui inquiète le plus au sein de l'Union européenne. Le pays perd encore des places et se classe à la 112e place en 2021. Là-bas, l'impunité à l'égard de la violence physique et verbale contre les journalistes y règne en maître. Tous ceux qui osent s'attaquer à la corruption font face à des menaces de mort.
Et quelle est la situation en Europe occidentale et en France ?
Selon le classement, la situation est meilleure. Pourtant, on note de nombreux points de vigilance et d'inquiétude. L'Allemagne, 13e, voit une augmentation des agressions subies par les journalistes durant des manifestations contre les mesures sanitaires en vigueur durant la pandémie. En France, 34e, comme l'année dernière, les mêmes problèmes structurels demeurent. Heurts et arrestations arbitraires durant les nombreuses manifestations qui secouent le pays, restrictions annoncées contre la nouvelle loi sur la sécurité globale, concentration verticale des médias, législation insuffisante sur la protection des sources. L'Espagne, quant à elle, pleure la mort de deux journalistes très aguerris au Burkina Faso. Dans des pays très bien classés, comme les Pays-Bas, 6e, le Portugal, 9e, la Suisse, 10e ou la Belgique, 11e, le journalisme est également concerné par les problèmes mentionnés plus haut. De manière générale, la liberté de la presse jouit d'une protection assez hétérogène en Europe occidentale, tout comme en Europe en général d'ailleurs.
Merci beaucoup Théo, et on écoute la suite de votre entretien avec Pauline Adès-Mevel.
Alors vous mentionnez pléthore de menaces pesant sur la liberté de la presse, rhétorique anti-média, intimidation à l'égard des journalistes, menaces sur la pluralité médiatique, ingérence étatique. Quelles menaces au pluriel sont-elles particulièrement préoccupantes selon vous ?
Oui, il y a plusieurs menaces préoccupantes en fait. Aujourd'hui, disons que ce sont les menaces qui se développent et qui croissent. Et qui deviennent un peu monnaie courante. J'en vois deux vraiment caractéristiques cette année. D'abord l'impunité, en fait, qui rend le métier de journaliste dangereux. Le fait qu'il y ait une absence de justice pour des crimes commis contre les journalistes, c'est un problème notamment rencontré dans le sud-est de l'Europe, avec Malte, ça peut avoir un effet délétère sur les journalistes et les pousser à l'autocensure. Par exemple, à Malte, qui est aujourd'hui classé 81e pays, un seul homme de main a été condamné en 2020 dans le cadre de l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, la journaliste assassinée en octobre 2017. Et on voit que ce climat va contribuer en fait à produire un effet délétère et à pousser à l'autocensure. Et puis on le voit dans des pays qui sont candidats, comme la Serbie par exemple, ou le Monténégro, d'interminables procédures judiciaires qui contribuent à cette impunité. L'autre gros fléau qui menace la région aujourd'hui, c'est cette haine, cette incompréhension du journalisme qui fait qu'aujourd'hui, il est devenu dangereux d'aller sur le terrain et notamment de courir des manifestations. Donc, des situations de violence qu'on voit partout en Europe, qu'on avait vu beaucoup en Espagne au moment du référendum sur la question de la Catalogne, où les journalistes étaient extrêmement physiquement agressés par la population. Ce sont pour moi aujourd'hui les deux fléaux qui menacent la région parce qu'ils s'installent et qu'ils sont devenus presque courants, en tout cas acceptés, ils ne sont plus suffisamment condamnés.
On parle souvent de l'influence des réseaux sociaux sur le journalisme actuel. Pour autant, peuvent-ils être considérés comme des tenants de la liberté de la presse plutôt que comme des catalyseurs de la violence à l'égard des journalistes ?
Les réseaux sociaux, qui sont vraiment une partie de notre journalisme actuel, en fait, sont vraiment des catalyseurs de violence, des multiplicateurs de violence. Le harcèlement en ligne, c'est un phénomène qui se propage à l'échelle mondiale et qui constitue sans doute aujourd'hui l'une des pires menaces contre la liberté de la presse. En fait, la plupart des journalistes qui sont victimes de cyberharcèlement, que nous interrogeons à RSF régulièrement puisque nous publions des rapports, en fait, se voient contraints à l'autocensure pour faire face justement à ces vagues de violence. Et on n'imagine pas l'ampleur, on n'imagine pas même virtuellement, l'impact que cela peut avoir sur les journalistes de façon courante. On a vu que pendant cette pandémie, la presse avait joué un rôle crucial dans la diffusion d'informations fiables sur l'épidémie de Covid-19 et que on avait vu également à Reporters sans frontières une augmentation des cas de cyberharcèlement de journalistes sur tous les continents et notamment sur le continent européen. Donc il faut également apporter des réponses. Il y a quelques années, on notait un phénomène donc croissant de cyberharcèlement en Finlande, notamment en Suède, et ça continue de perdurer. Je pense que c'est probablement d'ailleurs le seul point noir pour la Norvège cette année en matière de liberté de la presse. La Norvège qui reste le pays numéro un, le pays où la presse est dans une situation excellente et la liberté de la presse également. Et ça reste quand même un des problèmes aussi qui commence à voir le jour aujourd'hui.
Alors, dernière question, Madame Alès Mével. Que devrait faire l'Union européenne pour garantir la liberté de la presse sur le continent, selon vous ?
Il faut essayer de contrecarrer. D'abord, il faut essayer de mettre un point final en fait à cet effet domino, qui est donc contrecarrer la mainmise de régimes tels que celui de Viktor Orban sur les médias, qui freinent en fait la liberté de la presse et surtout qui se répandent ailleurs. C'est Reporters sans frontières a fait des propositions régulièrement ces dernières années pour faire en sorte que la liberté de la presse soit prise en tout cas pour comme une priorité en tout cas par les nouveaux dirigeants, par la nouvelle Commission européenne. Il faut absolument que l'exportation du modèle hongrois par exemple ne soit pas possible, que les dirigeants européens puissent comme Vera Jourova, par exemple, la commissaire, puisse être suivie et accompagnée. Ils puissent tous dénoncer ce type de problème. Il est aujourd'hui pour nous déplorable de voir que des États membres continuent à bloquer la procédure lancée contre la Hongrie, la procédure de l'article 7 pour violation des valeurs fondamentales, dont la liberté de la presse. Et il est quand même assez emblématique que cette faiblesse de la liberté de la presse ne figure pas parmi les conditions de flux de dons des fonds européens dans le cadre du nouveau mécanisme de l'état de droit.
Merci beaucoup, Madame Alès Mével, d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Place de l'Europe, RCF Alsace.
Pauline Alès Mével qui était à votre micro, Théo, échange très intéressant. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur ce classement de Reporters sans frontières. Nous poursuivons notre émission consacrée à la liberté de la presse en Europe et nous allons parler maintenant du dessin de presse. Et Théo, j'aimerais savoir en quoi le dessin de presse est-il important dans la liberté de la presse en Europe ?
Une image vaut mille mots, comme dit le dicton. Le dessin a ceci de magique que les coups de crayon du dessinateur de presse sont souvent très percutants et font passer aisément des messages liés à l'actualité, parfois très sensibles. Ainsi, le dessin de presse est une composante essentielle d'une liberté de la presse qui ne doit pas être qu'écrite. Pourtant, à l'instar de ce qu'il se passe pour les articles, enquêtes ou autres tribunes d'opinion, le dessin traverse une période de crise structurelle qui remet en cause sa pertinence même. Pour en savoir plus, je me suis entretenu avec Pierre Poma, alias Pete, dessinateur bien connu à Strasbourg et qui travaille notamment pour Rue 89. Il dresse un portrait assez sombre de l'avenir de sa discipline, notamment dans sa transmission aux futures générations.
La situation du dessin de presse en Europe, je pense qu'elle est un peu similaire à tout ce qu'on peut voir dans le monde occidental, en fait. D'une part, il y a un vieillissement de la population des dessinateurs de presse. Et là, je pense qu'on est arrivé à un cap où on voit parfois apparaître un peu des conflits de génération. C'est-à-dire que le dessin de presse, c'est un peu vu comme un truc de vieux, un truc un peu ringard, et aussi bien dans la forme que dans le fond, parfois. C'est quelque chose qui m'inquiète un peu. Je dois dire, donc ouais, j'ai l'impression qu'il y a une certaine difficulté à faire comprendre ce que c'est que le dessin de presse.
Alors pour Pete, le dessin de presse a pourtant un rôle fondamental et parfois très clivant sur la formation de l'opinion publique.
Le dessin de presse, ça peut être un moyen de galvaniser les troupes si on s'adresse à des convaincus finalement, pour un peu qu'on fasse un dessin un peu engagé. Et enfin ça, pour le meilleur comme pour le pire, on peut faire des dessins de presse pour, je sais pas moi, en faveur des droits des femmes, en faveur des droits humains, On peut aussi faire des dessins de presse complotistes. Ça peut être le moins, ça peut être aussi pour déranger, hein, si on a envie de parler d'un sujet très sensible en visant un public très large, ça peut être une manière de jeter un pavé dans la mare, on va dire.
Concernant plus spécifiquement la liberté de dessiner dans les médias et en particulier de traiter de sujets très sensibles pour telle ou telle communauté, l'inquiétude de Pete est là encore sans appel.
On a souvent vu des grandes déclarations de principe sur le dessin de presse, sur la liberté d'expression. Dans les actes, c'est très compliqué. Ça devient compliqué d'avoir des journaux qui publient de la caricature ou qui publient des dessins vraiment clivants. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, c'est un sujet qui était clivant, même avec les élèves, mais on pouvait en parler des caricatures de Charlie Hebdo. Enfin, c'est un truc que je constate depuis qu'il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, même au sein des collèges et des lycées, mais de plus en plus, j'ai des principaux, du personnel enseignant, du rectorat, même des gens du rectorat parfois qui se retrouvent dans des réunions pour faire des briefs. Quelque chose qui m'était jamais arrivé avant. On me faisait une confiance totale, j'arrivais avec mon PowerPoint, je faisais ma présentation, je déroulais et ça se passait très bien. De plus en plus, on me fait comprendre que ce serait bien d'éviter certains sujets.
Alors, ce que nous venons d'entendre concerne en premier lieu des thématiques sociétales nationales, comme les caricatures du prophète Mahomet. Alors Théo, est-ce que les dessinateurs de presse sont confrontés au même problème quand ils doivent représenter l'Europe ?
Alors, encore faut-il représenter l'Europe dans les médias nationaux, hein, catalyseur d'une opinion publique encore très nationale. Là-dessus, Pete prend exemple à partir de son expérience personnelle.
C'est un petit peu comme avec le journalisme, en fait. Il y a toujours cette tendance à regarder les problématiques européennes, avec comme filtre quelques obsessions nationales. Donc moi, oui, j'avais fait un mémoire sur le traitement de la crise de la dette grecque, donc vu par la presse, enfin par des dessinateurs de presse qui travaillaient dans de la presse française, allemande, européenne. Et c'est vrai qu'il y a souvent des prismes nationaux.
Ces spectres très nationaux empêcheraient même de représenter les principales figures de l'Union européenne, déjà très peu connues du grand public.
Il y a quand même une forte prédominance des préoccupations nationales du moment. Si je puis dire. Et de la même manière, ça se revoit dans ce qu'on choisit de représenter dans un dessin de presse. C'est très compliqué dans de la presse nationale généraliste de faire du dessin de presse, je ne sais pas, avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission.
Entre une crise profonde du dessin de presse, une crise de vocation et de sens, et une frilosité certaine d'aborder l'actualité européenne, faire vivre l'Union à travers des coups de crayon n'est décidément pas chose aisée.
Eh bien, merci beaucoup Théo Boucar d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de notre émission consacrée à la liberté de la presse en Europe. Au nom de l'association Les Jeunes Européens de Strasbourg, je remercie chaleureusement Pauline Hadès-Mével et Pete de nous avoir accordé une interview. L'intégralité de ces interviews sont à retrouver sur notre site internet jeunes-européens-strasbourg.eu. Votre prochain numéro de Place de l'Europe se tiendra lundi prochain. Quant à nous, on se retrouve le 28 juin pour la dernière émission de la saison. Comment parler d'Europe autrement ? Ce sera le thème de cette émission. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Très bonne soirée à vous.